Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Nous allons continuer notre enquête sur les premiers rois d'Israël, sur les origines de la royauté. Et nous avons, la semaine dernière, posé la question de l'historicité. Vous vous souvenez que c'est très compliqué. Je ne pense pas que c'est des figures qui sont purement inventées, mais c'est toujours le problème avec les figures légendaires, que dès que vous voulez préciser ce qui est historique, ce qui n'est pas historique, ça devient compliqué. Après, je pense qu'il faut aussi se rappeler, ce n'est pas forcément l'historicité d'un personnage ou d'un événement qui fonde son importance pour la fondation d'une croyance, d'une religion. Les gens ne se sont pas forcément posé la question quand ils ont raconté les histoires sur Saül, David et Salomon, est-ce que ces personnes ont existé ou pas. Ça, c'est nous qui posons ces questions. Et on a parfois un peu l'impression que nous avons un concept de vérité qui est très lié à l'historicité. Et ça peut être c'est quelque chose qu'il faudra un peu repenser. Je pense parfois la vérité peut être ailleurs, comme on le disait dans un feuilleton TV sur lequel je ne vais pas maintenant revenir. Voilà. Donc, la semaine dernière, nous avons vu les figures. J'ai essayé aussi de vous montrer ce qu'on peut dire, en effet, au niveau des attestations extra-bibliques, notamment à David. Et nous sommes arrêtés, après un petit parcours sur le contenu, sur la question de la mise par écrit. Alors, si l'historicité est compliqué, la mise par écrit, ben, nous avons un peu plus d'éléments. À un moment, ces choses ont été mises par écrit, mais aussi dans une grande diversité, comment je vais essayer de vous montrer. D'ailleurs, là, ici, sur ce diapo, vous avez les fragments du livre de Samuel, quelques fragments, parce qu'il y en a plus qu'on a trouvé à Qumran. Donc, c'est le fameux 4 Samuel, 4Q Samuel, voilà. Et vous voyez, c'est fragmentaire, mais en même temps, c'est quand même souvent des témoins textuels importants. On reviendra là-dessus. Donc, la question de la mise par écrit de ces histoires que je viens de vous dire, bah, ça continue un peu avec ce premier diapo. En fait, ces histoires, c'est ce qu'on peut appeler des mythes politiques ou des mythes théologico-politiques. Je vous renvoie à cet article pour ceux qui savent l'allemand et qui, en effet, montre cet article que chaque groupe social ou religieux ou d'autres a souvent un certain répertoire de mythes politiques ou théologiques qui peuvent s'adapter à des circonstances et qui peuvent changer aussi au cours des changements historiques, sociologiques et politiques, et peuvent être réactivés dans différentes situations. Je ne vais pas maintenant faire une analyse de ça, mais pensez par exemple au mythe de Jeanne d'Arc, qui a certainement aussi peut-être quelques racines historiques, mais selon qui l'utilise, ce n'est pas tout à fait le même discours. Et pour David, Salomon et Saül aussi, c'est un peu la même chose. Donc ça ne veut pas forcément dire que ces personnes n'existent pas, mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on raconte sur ces personnes que l'existence de ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la mise par écrit des récits qu'on trouve dans les livres de Samuel au début des livres des rois? Donc, je vous rappelle que dans la traduction grecque, les livres Samuel et rois font en fait une unité parce qu'ils sont appelés les livres des quatre livres de règne. Un de Samuel, c'est un de règne, et un de roi, c'est trois, quatre règnes. Donc, ça fait un ensemble. Et toutes ces histoires présupposent, dans leur forme actuelle, donc je pense qu'il faut toujours commencer un peu par ce qui est le plus sûr, dans leur forme actuelle, ils présupposent en fait la fin des royaumes d'Israël de Juda. C'est-à-dire, c'est une réflexion sur la royauté, mais à la lumière d'une royauté qui a échoué d'une certaine manière, qui n'a pas pu se maintenir, d'où après toutes sortes d'espérances du retour ou non d'un roi, du Messie, tout ce que vous avez dans le Nouveau Testament sur Jésus comme Messie, sans ces histoires, vous ne comprenez rien. Donc c'est une des conséquences de toute cette question, est-ce qu'il faut attendre le roi, quel type de roi est-ce qu'on va avoir. Il est important donc, de commencer par ça. Et une théorie historique importante a été, pour la mise par écrit de ces textes, a été proposée en 1943. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, je ne vais pas faire la sociologie des exégètes, mais Martin Hoth a écrit son petit livre sur l'histoire deutéronomiste. Les fidèles entre les fidèles se souviennent vaguement ce que c'est l'histoire deutéronomiste. Quelques-uns se souviennent peut-être. Oui. Je reprends un petit peu. Donc, l'idée de Hoth en 1943, c'est que ces livres qui vont du Deutéronome jusqu'à Roi aurait été en fait révisé, rédigé par un auteur qu'il appelle le Deutéronomiste, parce qu'il s'inspire du style et de la théologie du livre du Deutéronome, pour expliquer la catastrophe, de la chute de Jérusalem. Donc en fait, on avait des récits plus anciens, mais ils ont été retravaillés avec l'idée, il faut expliquer pourquoi Jérusalem a été détruite. Donc si vous pensez que Hoth vit en 43, ben, il voit déjà la catastrophe venir. Donc il y a beaucoup de projections aussi de Hoth sur le deutéronomisme, mais ça c'est une autre histoire. Et la théorie, à mon avis, elle a toujours une validité. Sans doute, il ne faut pas penser comme Hoth que c'était un seul individu qui a écrit ou qui a rédigé l'ensemble de tous ces rouleaux. Il faut plutôt penser à une école, donc une sorte d'auteur. En plus, il a dit un auteur un peu, à son propre compte, pas du tout lié à des institutions, ni à la prêtrise, ni au palais, ni à des scribes. Ça, c'est un peu anachronique quand même. Mais l'idée qu'il y a une révision de ces textes, ça, je pense, c'est quelque chose de tout à fait juste. Ce qu'on peut, contrairement à Hoth, imaginer que ce travail de ce qu'on peut appeler l'école deutéronomiste a déjà commencé bien avant l'exil, c'est-à-dire bien avant, quelques décennies avant, à l'époque du roi Josias, puisque ça explique aussi que par rapport à la royauté, vous avez à l'intérieur de ces livres, et nous allons le voir en détail, vous avez en effet des positions très différentes. Nous allons le voir aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent la royauté, c'est la pire des choses qui peut arriver, et d'autres disent que c'est quand même une chance en fait, de donner au peuple une gouvernance. Ce deutéronomiste, ou ces deutéronomistes, il faut plutôt parler au pluriel, n'ont pas tout réinventé. Ils ont pris des textes, et ils les ont intégrés parfois aussi, même s'ils étaient un peu contraires à leur propre idéologie. Donc Martin Hoth, en effet, dit que le deutéronomiste, c'était un peu quelqu'un d'honnête, dans le sens qu'il reprenait les anciennes traditions, et quand ça ne lui plaisait pas, il les gardait quand même. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, mais il se fie beaucoup en ce qui concerne les livres de Samuel et de Roi, un livre qui date déjà de 26 d'un exégète qui s'appelle Leonard Rost, qui en fait écrit un livre sur la tradition de la succession de David sur le trône. Et il dit en fait, à l'intérieur du livre de Samuel, il y a en fait déjà des cycles narratifs qui préexistent, qui ont été écrits pour lui, même par des témoins oculaires. Donc il est très, très optimiste, il pense que c'est des scribes à la cour de Salomon qui auraient écrit ces histoires, une histoire de l'arrivée au pouvoir de David, de ce qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David au pouvoir, l'histoire de la succession, donc, qui est compliquée, qui va être le successeur de David, et d'autres traditions, comme par exemple l'histoire de l'Arche, un sujet sur lequel j'ai fait cours il y a quelques années et que je ne veux pas trop reprendre cette année. Donc cette idée, et là je vais vous donner un petit aparté, cette idée que ça aurait été rédigé par des témoins oculaires. Donc aujourd'hui, ben, vous allez vous en douter, on est beaucoup moins optimiste par rapport à ça, parce que est-ce qu'au Xe siècle, il y avait déjà en fait une capacité de mettre par écrit des telles histoires? Il y a tout un débat, est-ce qu'on a les origines d'une certaine capacité d'écrire autre chose que son nom et quelques contrats? Ça, c'est une grande question. Donc au Xe siècle, ça paraît difficile. Mais je voulais quand même vous parler d'un livre. Si vous prenez les transports et si vous voulez faire autre chose que regarder le smartphone, peut-être vous l'avez aussi sur le smartphone, ça c'est possible, je vous conseille ce livre qui était traduit en français, qui s'appelle « La chronique du roi David ». Et c'est très bien parce qu'il faut d'abord lire le texte biblique et après il faut lire cet auteur qui est Stefan Heim, un auteur est-allemand qui a écrit ce livre d'abord en anglais et ensuite en allemand. C'est d'abord paru en Allemagne de l'Ouest avant de paraître en Allemagne de l'Est. Et en fait, c'est une sorte de roman politique qui reprend l'idée de Rost, en fait, d'une histoire écrite par des témoins oculaires. Et selon Heim, dans cette histoire, c'est un scribe qui est mentionné dans le Livre des Rois, qui est chargé par Salomon d'écrire une histoire à la gloire de son père David. Et en fait, il fait une enquête. Il se rend compte que le roi David, il n'était pas si au-delà de tout soupçon. Donc quand on commence à garder dans les archives, ben, vous avez d'autres exemples dans la tête. Quand on regarde dans les archives, parfois il y a des choses qu'on trouve qui ne sont pas toujours à la gloire de celui, de celle qu'on veut célébrer. Et donc du coup, le roman met en scène toute une pression de l'entourage de Salomon sur ce pauvre scribe pour qu'il tait un certain nombre de choses qui finalement il arrive quand même à intégrer. Et c'est une manière assez littéraire, un peu ludique aussi, d'expliquer en fait les tensions que vous allez trouver dans ces histoires de Samuel et au début du Livre des Rois. Donc je vous invite de lire ce livre qui est en fait aussi, quand ça a été écrit, c'est dans les années 72-73, une critique en fait des régimes totalitaires de l'Allemagne de l'Est, du stalinisme soviétique, etc., introduit dans la cour du roi Salomon. Donc voilà, et il est très dépendant, donc il a vraiment lu Rost et il reprend en fait les idées de Rost pour en faire un roman. Donc là aujourd'hui on sera, comme je vous ai dit, moins confiant par rapport à l'idée que c'était écrit par des témoins oculaires. C'est probablement écrit plus tardivement. Il y a la question sur les origines de ces récits. Est-ce qu'il y a des traditions plus anciennes? Alors là, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est des traditions écrites ou est-ce que c'est des choses qu'on se raconte un moment avant que quelqu'un, en fait, décide de mettre ces choses par écrit? Et si vous prenez par exemple le personnage de Saül, on va le découvrir tout à l'heure. Saül, c'est quelqu'un de positif ou de négatif? Si on prend l'image globale, on peut se dire plutôt négatif parce qu'il est rejeté par Yahvé. Mais il y a quand même des récits où il se comporte pas trop mal. Donc, est-ce qu'il y avait des traditions positives sur Saül qui ensuite ont été intégrées dans un ensemble différent? Et enfin, quand on regarde ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David, où David, en fait, commet l'adultère, où son fils Absalom fait la révolte contre son père, et se fait tuer quand même aussi un peu, toléré par son père. À la fin, lorsque Salomon arrive au pouvoir, David est totalement en incapacité de décider quoi que ce soit. Donc c'est un David pas très positif, qu'on a un peu occulté après dans l'histoire de la réception. Alors est-ce que c'est des traditions anciennes? Ou est-ce que c'est des traditions que quelqu'un a rajoutées pour dire « Mais vous parlez toujours de David, de la royauté, de tout ça, mais regardez ce que David a vraiment fait. » Donc il faut lire le tout. Hein. Donc du coup, il y a certains auteurs qui vont dire ce sont en fait des ajouts assez tardifs dans le texte où quelqu'un, en effet, voulait un peu s'opposer à des espérances messianiques, le retour de David, etc., à l'époque perse, ou même plus tard. D'ailleurs, cette histoire de la succession, elle n'est pas racontée dans les livres des chroniques. Un livre chronique qui raconte aussi l'histoire de David et de Salomon, mais qui, en fait, taisent ou ne connaissent pas l'histoire de la succession. Donc, beaucoup de questions qui vont nous accompagner. Je n'ai pas encore totalement une idée précise, mais ça va venir au fur et à mesure du cours. Et puis, je suis toujours preneur des hypothèses. Donc, je vous donne deux hypothèses actuellement qui sont... Ben, il y en a beaucoup sur le marché. Le premier, ben, il faut que je vous le dise, parce qu'il vient d'André Caco et Philippe de Robert. André Caco est un professeur ici au Collège de France. Et il a consacré plusieurs années pour faire un cours sur les livres de Samuel. Moi, je ne vais pas faire plusieurs années, je vais faire cette année, après on verra autre chose. Mais donc, il s'est quand même vraiment profondément intéressé à ces textes. Et lui, il reste assez traditionnel dans l'idée qu'il y avait des récits indépendants, mais qui auraient été assez rapidement collecté par ce qu'il appelle un rédacteur sadocide. Sadoc, c'est le prêtre qui est mis en place par Salomon. Et selon De Robert et Caco, ça aurait été quelqu'un de l'entourage, donc ils ne savent pas qui, mais un rédacteur sadocide qui, déjà au Xe siècle ou au début du IXe, aurait mis les choses par écrit avant qu'interviennent, et là, au moins, tout le monde est d'accord, les fameux rédacteurs deutéronomistes, probablement pas un seul, mais plusieurs. Une autre hypothèse est l'hypothèse de Walter Dietrich, qui a fait un très très grand commentaire en allemand sur Samuel, de le premier et deuxième Samuel, et lui parle aussi des traditions indépendantes, mais il est défini un peu mieux. Donc lui, par exemple, il dit qu'il y a des traditions positives sur Saül qui ont circulé d'abord de manière indépendante. L'arrivée au pouvoir de Saül, c'est une bataille dont on va parler tout à l'heure. Mais il y avait aussi des petits cycles sur David. Par exemple, quand David est un peu un condottiere ou un corsaire qui, en fait, raquette les villages, ce qui n'est pas non plus vraiment toujours à la gloire de David. Et ensuite, il dit, après 722, lorsque le royaume du Nord a disparu, dans le royaume du Sud, on a écrit ce qu'il appelle un höfisches Erzählwerk, un ensemble narratif de la cour, où on aurait en effet réuni en fait ces traditions pour à la fois montrer que Saül et David, ils appartiennent ensemble, ils sont ensemble, c'est-à-dire le Nord et le Sud est une unité, évidemment avec un certain avantage pour David, mais tout en acceptant quand même qu'il y a des choses aussi positives sur Saül. C'est ce qui me semble assez intéressant. Et puis après, évidemment, les rédacteurs deutéronomistes, donc lui, on en a trois, ça c'est pas très important, on va pas s'attarder là-dessus. Donc je pense en effet, comme hypothèse de travail, il faut penser qu'il y avait des traditions anciennes. La question vraiment qui est très très difficile, ces traditions anciennes, comment elles étaient connues? Est-ce qu'elles étaient déjà sur des petits rouleaux? Est-ce que c'est des choses qui se racontaient à la cour peut-être? Ça c'est presque impossible dans l'état de notre connaissance, sauf si on trouvait un jour un rouleau. Il y a peu de chances qu'on en trouve, parce que les rouleaux de parchemin, de papyrus, ont des durées de vie très limitées. Et tout ce qui est un peu un environnement humide n'est pas propice à la conservation. Ce n'est pas par hasard que presque tous les manuscrits que nous avons viennent de la mer Morte, donc d'une région de grande sécheresse, en fait. Donc ce qui permet à ces rouleaux qu'ils se sont maintenus. Donc je pense en effet, et là je suis assez d'accord avec Dietrich, après la destruction de Samarie dans le royaume du Sud, à un moment donné, dans le royaume de Juda. Des scribes ont dit il faut reprendre ces traditions, peut-être à l'époque du roi Josias, peut-être avant déjà, à l'époque du roi Ézéchias, qui se sont en effet un peu fait célébrer comme étant les réincarnations, pas réincarnations, mais des nouveaux David d'une certaine manière. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a en fait une première vraiment cycle narratif. Avant, on a des traditions qui ne sont pas toujours faciles à serrer, mais à cerner, mais vous allez voir, parfois, on a quand même quelques éléments. Et donc, après, les rédactions deutéronomistes. Donc, où tout le monde est d'accord, c'est ces fameuses rédactions deutéronomistes, mais ce n'est pas les derniers, il y a des ajouts plus tardives, et surtout, quand on regarde la Septante, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la version grecque, ou les versions grecques, parce qu'il n'y a pas une seule version grecque, il y a des versions grecques, sont souvent très très différents du texte massorétique, du texte hébreu standard. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même une diversification de la transmission de ces traditions qui doivent commencer quand même aux alentours du 4e, 3e siècle, parce que quand on regarde déjà à Qumran, on a, par rapport à Samuel, quelques fragments qui sont proches du texte massorétique, mais la plupart, en fait, on a l'impression que c'est un autre texte hébreu. Et pour la Septante, c'est un peu la même chose. La semaine prochaine, nous allons parler de David et Goliath. Mais en fait, il y a vraiment deux histoires de David et Goliath. Une histoire très longue dans le texte hébreu et une histoire beaucoup plus courte dans le texte grec. Alors, est-ce qu'un traducteur peut raccourcir plus que la moitié de son texte qu'il traduit? C'est difficile à imaginer. Donc, ça veut dire que probablement le traducteur grec avait à disposition un autre texte hébreu que celui qui est devenu le texte massorétique. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la mise par écrit. Et non, maintenant, venons aux histoires de Saül. Mais quand on parle de Saül, il faut aussi parler de qui? De Samuel, voilà. Et donc, on va commencer avec Samuel, parce que les destins de Saül et Samuel sont liés. Pas tellement avec David, parce que par rapport à David, en fait, Samuel ne fait que loindre, et après, il disparaît de la scène. Donc, ça nous montre déjà, en fait, que les liens sont beaucoup plus forts entre Saül et Samuel. D'ailleurs, Samuel, il vient du Nord, hein. Et donc ça peut en effet indiquer que ces traditions de Saül étaient d'abord transmises dans le Nord, puisque Saül il vient d'où? Où est-ce qu'il vient? De Benjamin. Et Benjamin, c'est un peu une sorte de région frontière entre le Sud et le Nord, mais à l'origine, c'était plutôt dans le Nord. Donc du coup, il y a un lien entre les deux. Je vous ai déjà dit, en fait, qu'il y a déjà un lien très fort au moment de la naissance de Samuel qui ouvre les livres de Samuel. Donc, on va commencer non pas avec la naissance de Saül. D'ailleurs, la naissance de Saül, on ne la raconte pas. On raconte la naissance de Samuel. Mais souvenez-vous, quand Samuel est né, on va expliquer son nom, la mère va expliquer son nom. Je vais l'appeler Samuel, car je le demandais au Seigneur. Et là, c'est la racine Sha'al, qui marche beaucoup mieux avec Saül. Samuel, c'est plutôt quelque chose avec le nom de El ou quelque chose comme ça, le nom de El est grand. Donc, est-ce que c'était à l'origine l'histoire de la naissance de Saül qu'on a transféré sur Samuel? Ou est-ce qu'on voulait dire d'emblée, mais dans la naissance de Samuel, il y a aussi l'histoire de Saül? Les deux sont possibles, difficile vraiment à décider, mais il y a déjà dans le texte actuel une sorte d'introduction, tout en racontant les origines de Samuel, qui va se trouver après au sanctuaire de Silo, hein, on va déjà en fait le mettre en rapport avec Saül. Silo jouera un rôle important dans l'histoire de l'Arche, où Samuel finalement n'arrive pas tellement sur la scène, et Saül n'a jamais de lien avec Silo. Donc ça, vous voyez aussi qu'il y a des traductions différentes. Donc l'histoire de l'Arche interrompt en fait d'une certaine manière l'histoire de Samuel. Donc vous connaissez l'histoire de l'Arche. L'Arche qui est à Silo, qui est amenée sur le champ de bataille contre les Philistins. Les Philistins la capturent. Ben, après, ils la ramènent chez eux et ça ne se passe pas très bien. Ils doivent la rendre. Et puis finalement, l'Arche arrive à Kiryat Yearim. Mais cette histoire, en fait, est certainement une histoire indépendante qui n'a pas de lien originel ni avec Samuel ni avec Saül. Samuel, ça continue au chapitre 7. Et au chapitre 7, on va voir que Samuel est en effet présenté un peu comme le dernier des juges. Donc vous vous souvenez, avant le livre de Samuel, vous avez le livre des juges. Et les juges, c'est quoi? C'est pas seulement des gens qui ont un pouvoir juridique, c'est aussi des sauveurs, c'est des héros charismatiques. Hein. Donc le nom est un peu ambigu, mais on les appelle le chauffe-time. Et Saül, tout en étant dans le livre de Samuel, tout en étant le héros du livre de Samuel, en fait, il est présenté comme étant le dernier des juges. Et ça, c'est dit plusieurs fois. Je vais vous le montrer. Et ça, c'est intéressant aussi pour le livre de juges, parce qu'il y a combien de juges? Il y a des grands et des petits, c'est-à-dire des grands, on raconte des histoires. Les petits, on dit simplement, ils jugeaient Israël tant d'années, etc. Si vous calculez le livre de juges, vous avez 12. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un livre avec 13 juges? Pas vraiment. Alors, soit on dit on a mis Samuel pour éviter qu'on en avait 13, ou alors on peut dire que le dernier juge, qui est un juge un peu bizarre, c'est lequel le dernier des juges? C'est Samson. Samson, on est plutôt dans la burlesque, on n'est pas tellement dans les récits de sauveurs. Quand c'est Samson et Delila, ça rappelle beaucoup aussi la mythologie grecque, ça rappelle Hercule et tout ça. Donc peut-être aussi on peut s'imaginer qu'à ce moment-là, ces histoires sur Salomon n'existent pas encore. Ça, c'est une autre possibilité. Mais donc on va en effet avoir un discours de Samuel qui commence de manière très deutéronomiste en disant il faut vous attacher à Yahvé, il faut vous défaire des autres dieux. On parle dans les livres de Samuel souvent des Baal et des Astarté. Astarté, c'est probablement une version ouest-sémitique de Ishtar, ça nous occupe moins maintenant. Mais ce qui est intéressant, cette mention d'Astarté, elle fait aussi de nouveau allusion déjà à l'histoire de Saül. Parce qu'au moment de la mort de Saül, on va dire que les Philistins mirent ses armes dans la maison des Astarté et attachèrent son cadavre sur le mur de Bet-Shean. Donc Bet-Shean, tout au nord, vous l'avez sur la carte. Et c'est là, apparemment, on dit, les Philistins contrôlent apparemment cette région et, en fait, mettent Saül ou mettent ses armes dans le temple d'Astarté. Donc, cette mention très deutéronomiste est aussi faite déjà pour, en effet, annoncer la fin de Saül. Ensuite, dans ce chapitre 7, on utilise vraiment le terme de juger, puisque on dit que Samuel jugea les fils d'Israël à Mitzpah. Hein? Mitzpah, ça veut dire quoi? Mitzpah, c'est un poste d'observation. Hein? Mitzpah, qui en fait est identifié à ce tel qui est le Tel El Nasbé. Donc vous voyez, c'est un magnifique tel, donc entouré évidemment là maintenant des habitations modernes. Et en fait, qui était occupé déjà à l'époque du bronze, ensuite au début de l'époque de fer, mais peut-être pas tout à fait à l'époque qu'on attribue normalement à Saül. Hein, et Mitzpah devient important. Et peut-être ça c'est intéressant aussi, pourquoi tout à coup on s'est réintéressé à ces histoires sur Saül. Pourquoi Mitzpah devient important à un moment ? Qu'est-ce qui se passe quand les Babyloniens détruisent Jérusalem ? Alors, le gouvernement provisoire, ou je ne sais pas comment il faut appeler les choses, donc ils mettent en effet un gouverneur à Mitzpah. Hein ? Et donc, du coup, ça peut aussi expliquer pourquoi Mitzpah est si populaire dans les histoires de Saül. D'ailleurs, Mitzpah, apparemment, est quand même déjà à l'époque de fer un lieu important. On a trouvé à Mitzpah des cruches probablement de provisions, qui en fait portent des empreintes des sceaux Motsa. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Motsa. Motsa, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem, où on a trouvé un immense temple dont la Bible ne parle pas du tout, qui est à quelques kilomètres du temple de Jérusalem. Bon, ça, ce sera pour un autre cours, mais c'est intéressant parce que, en effet, vous avez des liens entre Mitzpah et ce Motsa, qui est un temple, en fait, de l'époque de fer, et que les auteurs bibliques taisent. Parce qu'il fait concurrence à Jérusalem, probablement. Ou il était peut-être plus ancien que le temple de Jérusalem, mais on ne sait pas trop. Donc, mais Mitzpah jouera un rôle important dans l'histoire de Saül et Samuel. Et Samuel, en fait, au chapitre 7, il fait déjà la guerre aux Philistins. Donc on a l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin de Saül. Parce que Saül, en fait, va être très impliqué dans la guerre contre les Philistins. Vous vous souvenez, on a parlé des Philistins la semaine dernière. Hein, et en fait, si on croit le chapitre 7, on dit que les Philistins furent abaissés et ils ne recommencèrent plus à venir dans les territoires d'Israël. Et la main de Yahvé fut sur les Philistins durant tous les jours de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël revient à Israël. Et Israël arracha également leur territoire aux Philistins. Il y a eu la paix entre Israël et les Amorites. Donc si on lit ça, on a l'impression que tout est réglé. Les Philistins sont pacifiés. Les Amorites, on ne sait pas trop qui c'est, les Cananéens, disons, on est en paix avec eux. Donc, en fait, l'histoire pourrait s'arrêter là. Et c'est une manière de dire, en fait, que Samuel, finalement, ce qu'il fait, c'était presque suffisant. L'idée, évidemment, qui est sous-entendu dans ces textes, que Israël aura récupéré les villes philistines, ça correspond à rien. Donc il n'y a aucun contexte historique pour ça. Peut-être le seul contexte historique auquel on peut penser, c'est au 7e siècle avant notre ère, où les Assyriens, en fait, vont faire la guerre à ces cités philistines, vont les prendre, vont détruire certains, d'autres ils vont les intégrer dans l'Empire assyrien. Et donc du coup, à l'époque, à la cour de Jérusalem, on a pu avoir l'idée, maintenant ces villes-là, ils n'ont plus de fortifications, peut-être on peut les récupérer. Mais ça ne s'est jamais fait. Mais cette idée qu'on pense à ça, trouve peut-être son contexte à ce moment-là. Donc, comme je vous ai dit, Samuel est le dernier juge. C'est dit à la fin, Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. À Bethel, à Gilgal, à Mitzpah, c'est des noms, en fait, des localités que vous devez avoir un peu en tête parce qu'ils vont en revenir. On a l'impression que c'est un peu un juge itinérant, Samuel. Il va sur différents grands sites de sanctuaires. Et en fait, il habite à Rama. C'est là où il habite. Rama, c'est la colline. Hein, il y a plusieurs lieux qui portent le même nom. Il y a un Rama en Benjamin et il y a un Rama en Ephraïm. Donc la question, c'est ça va, à quel Rama pensent les auteurs du livre ? Donc Ramat Benjamin, c'est plus proche des autres lieux, mais en même temps, Samuel semble plutôt lié au nord, donc c'est peut-être quand même ce Ramat ici que vous avez dans la montagne d'Éphraïm qui a déjà été identifié avec le père d'église Euseb, avec Rentis. C'est probablement à cet endroit-là qu'on peut imaginer l'origine des traditions sur Samuel. Alors, Samuel est donc présenté comme un chef exemplaire, et ça vous donne déjà un peu un contexte. Donc tout se passe bien. Pourquoi du coup est-ce qu'on a besoin d'avoir un roi sur Israël? Et c'est là, en fait, ça fait un peu l'opposition avec les récits suivants, puisque dans les chapitres 1 Samuel 8 à 12, on a plusieurs textes qui parlent des origines de la royauté. Hein ? Samuel 8 et 12, c'est un cadre, puisque là, on ne parle pas de Samuel et de Saül, on parle du peuple qui demande à Samuel un roi. Et à l'intérieur de ce cadre, vous avez trois récits. Trois récits qui expliquent pourquoi ce roi est Saül. Le premier, c'est une sorte de conte fée où Saül va chercher les ânesses de son père et il trouve la royauté. Et ça se passe à Rama, dans la ville de Samuel. Après, il y a un deuxième récit où Saül devient roi parce qu'il est en effet désigné par le sort. Et finalement, troisième, à Gilgal, où il devient roi, il est proclamé roi, après sa victoire contre les Amorites. Les Ammonites, pardon. Donc, et du coup, regardons comment ça commence. Ça commence en fait en 1 Samuel 8, avec un texte qui vient certainement des Deutéronomistes, qui est le désir du peuple d'être comme les nations. Donc le peuple vient vers Samuel, les anciens, et ils disent « Donne-nous un roi ». Mais ce qui est intéressant, « Donne-nous un roi, pour quoi faire ?» Si vous lisez. « Donne-nous un roi pour nous juger ». Donc en fait, ils veulent un nouveau juge d'une certaine manière. Hein, ils veulent un roi, mais quand il raconte en fait ce que ce roi doit faire, il doit faire ce que Samuel avait fait. Hein. Donc on reste un peu dans la continuité. Et Yahvé dit à Samuel, écoute la voix du peuple, de tout ce qu'ils te diront, parce que Samuel n'est pas très content. Et Yahvé dit, mais écoute-les. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. C'est moi qui les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné et servi d'autres dieux. Vous vous souvenez, ça, on l'avait déjà entendu au chapitre 7. Donc c'est un thème cher aux deutéronomistes. Hein, donc l'idée c'est quoi? C'est un texte qu'on peut appeler théocratique. Vous voulez un roi humain? Ben, vous rejetez en fait votre roi divin. Hein, c'est ça l'idée. Donc, le peuple veut la continuité des juges, et ce roi signifie en fait le rejet de la royauté de Yahvé. Hein. Donc il y a une sorte de mise en parallèle entre Yahvé et Samuel. Samuel pense que le peuple le rejette lui, mais Yahvé lui dit, mais attends, en fin de compte c'est moi qu'il rejette. Et puis il lui dit, fais-leur connaître le droit du roi. Là, c'est le roi qui régnera sur eux. Et donc là, on n'est plus tout à la fin. On n'est plus du tout dans les juges. Parce que là, on a la racine malach. Hein. Mishpat ha-melech, le droit du roi, qui sera roi sur eux, Asher Yimloch. Hein. Donc là, le juge, on l'a laissé tomber. Là, on est passé vers les rois. Et après, on va avoir toute une liste que je vous laisse découvrir, ce que le roi va faire. Le roi va prendre les jeunes gens, il va prendre les jeunes filles, va mettre des impôts, va s'emparer des terrains de ses sujets. Et tout ça, voilà ce que fait le roi. Donc, c'est en effet des pratiques courantes des régimes monarchiques du Proche-Orient ancien, peut-être pas seulement du Proche-Orient ancien, hein, donc constitution d'une armée, confiscation des terres, mise en place des corvées, prélèvement des taxes, et c'est une manière assez ironique en fait de dire vous voulez un roi, ben voilà ce que vous devez accepter. La question, savoir, et ça c'est difficile aussi de savoir, est-ce que c'est un texte ancien qui reflèterait une sorte d'idéologie égalité de l'Israël pré-monarchique, hein, comme l'a dit Frank Kruseman dans ses livres « La résistance contre la royauté », malheureusement seulement disponible en allemand. Selon lui, c'est un texte très ancien, en fait, qui reflète les discussions au moment où la monarchie se met en place. Ou on peut aussi dire que c'est un texte récent qui connaît l'histoire de la royauté et qui a vu ce que les rois ont fait. Et qui dit, voilà, un roi va faire comme ça. Donc à vous de voir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Peut-être cette énumération, c'était peut-être d'abord un petit texte indépendant. Peut-être on pourrait imaginer même les scribes qui étaient un peu frustrés de leur roi. On dit, voilà, on va écrire ce que le roi fait. Donc, parce qu'on a trouvé en Égypte, notamment, des scribes, quand ils s'ennuient, ben, ils griffonnent des trucs, ils gribouillent des machins. Peut-être c'était ça, on ne sait pas. Mais évidemment, vous voyez, l'histoire de la royauté, elle est ouverte de manière pas très positive. Après, ça change. Quand vous passez au chapitre 9 et 10, on est vraiment là, ça c'est une expression qui vient d'un commentateur allemand, Gressmann, qui a dit « c'est un conte de fées d'un jeune garçon qui se met à la recherche des années perdues et qui retrouve la royauté ». C'est un peu ça, hein, c'est très conte de fées. Et donc ça commence en fait, il y avait un homme de Benjamin, son nom était Kish, fils d'Aviel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afia, fils d'un Benjaminite, un homme puissant. Il avait un fils, son nom était Saül, un homme exquis ou de belle statue. Il n'y avait pas meilleur que lui parmi les fils d'Israël. Il dépassa tout le peuple de la tête et des épaules. Les ânes de Kish, le père de Saül, s'étaient égarés et Kish dit à son fils Saül, « Prends donc avec toi l'un de tes serviteurs ou des jeunes gens, en fait, c'est Nahar, part à la recherche des ânes. » Et il parcourut, ou ils parcoururent dans la Septante, la montagne d'Éphraïm. Il parcourut le pays de Shalisha, sans trouver. Il parcourut le pays de Shaalim, rien. Il parcourut le pays de Yémini. Alors, est-ce que c'est Benjamin ou c'est encore un pays inventé parce que Shaalim et Shalisha, on ne sait pas où ça se trouve. Hein. Donc, voilà. Donc, ça ouvre en effet une histoire indépendante. Il fut une fois, hein, il fut une fois un homme à Benjamin qui avait un fils. Ben, c'est des contes de fées qui commencent comme ça. Hein. Et cet homme s'appelle Kish. On donne toute sa liste des ancêtres, une généalogie qui a le même nombre de personnes que la généalogie de Samuel au début de l'histoire, en 1 Samuel 1. Est-ce que c'est par hasard ou pas? Ou est-ce que voilà, ça conforte un peu l'idée qu'il y avait des liens entre les deux? Donc, le fait qu'on dit que Saül, il était beau, pourquoi on dit ça? Parce que les rois sont toujours beaux. C'est vrai, dans l'idéologie royale, quand on veut présenter quelqu'un comme ayant la qualité... Après, beau, bah, tout est relatif, hein, mais dans l'idéologie royale, un roi est beau. Pensez au petit Moïse, dont on va dire qu'il est beau, parce qu'il est appelé à un destin quasi royal. De David, après, on va dire aussi qu'il est beau. Absalom, qui fait la révolte contre son père, on va dire qu'il est beau. Adonias qui devient le concurrent de Salomon. On va dire aussi qu'il est beau. Donc la beauté, ce n'est pas tellement ici un jugement esthétique, c'est en fait de faire comprendre aux auditeurs qu'il y a peut-être un destin autre que juste s'occuper des ânesses perdues de son père. Hein? Le fait qu'il est grand, ça c'est autre chose, parce que ça fait un lien en fait avec l'histoire suivante, où on va en effet raconter qu'il veut se cacher, mais il dépasse tous les autres, et il ne peut pas tellement se cacher, on verra ça dans un instant. Et alors, les ânesses. Les ânesses, c'est en effet, à l'origine, en fait, des animaux relativement coûteux et précieux. Donc ça montre que Kish, en fait, fait partie d'une famille aisée. Hein. Et avant la domestication des chevaux, c'était l'âne, en fait, qui était l'animal pour voyager. Donc, il servait de monture aux nobles. Vous avez ici une représentation sur une stèle qu'on a trouvée dans la péninsule du Sinaï. Vous connaissez aussi l'histoire de Zacharie, où il y a le roi humble sur l'âne, repris dans le Nouveau Testament. Quand Jésus se promène sur l'âne, bah, ça vient déjà de cette longue tradition qui commence au deuxième millénaire. Et donc Saül fait tout un parcours avec, si on veut faire une carte, mais peut-être il ne faudrait pas faire des cartes. Les exégètes veulent toujours faire des cartes, il est passé par là, il est passé par là. Et il y a tellement de lieux qu'on ne connaît pas. On ne dit même pas le point de départ. Donc il peut avoir passé par, là, par l'est ou il peut passer par l'ouest. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais l'important, c'est que le voyage s'achève en fait au pays de Souf. Et donc ils étaient arrivés au pays de Souf. Et Saül dit à son serviteur, aux jeunes gens qui l'accompagnaient, allons, retournons de peur que mon père ne pense plus aux ânesses et s'inquiète à notre sujet. Il lui dit, mais il y a dans cette ville un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quoi un homme de Dieu? Une sorte de chaman comme ça, on ne sait pas trop. C'est un homme respecté. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Maintenant, allons-y donc. Peut-être nous renseignerait-il sur le voyage que nous avons entrepris. Saül dit à son serviteur, eh bien nous allons, mais qu'apporterons-nous à cet homme? Il n'y a plus de pain dans nos sacs, il n'y a pas de présent qu'on pourrait apporter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous? Le serviteur continue et répondit, dit à Saül, voici dans ma main s'est trouvé un quart de sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Donc là, le serviteur est très important. La Septante a probablement corrigé, tu le donneras. Hein, et il nous renseignera sur notre voyage. Et là, petite remarque étymologique, autrefois en Israël, on avait coutume de dire, quand on allait consulter Dieu, venez, allons trouver le voyant. Car le prophète aujourd'hui, on l'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, bien parlé, viens, allons-y. Ils allèrent à la ville où c'était l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu, apparemment, c'est quelqu'un qu'on peut consulter à toutes sortes de questions. Donc j'ai perdu mes ânesses, dis-moi où ils sont. Ben, ça se fait comme ça, et puis contre une petite rémunération, donc cette rémunération est un quart cycle d'argent qui apparemment est considéré comme suffisant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le Nahar, le jeune garçon qui accompagne Saül, qu'on traduit souvent par serviteur, mais qui en fait joue un rôle très important dans cette histoire. C'est pas simplement un accompagnateur, hein, c'est quelqu'un qui prend l'initiative. Là, par exemple, on dit « on y va ». Et j'ai encore l'argent, etc. Et donc, il y a plusieurs histoires dans la Bible où ces Naharim, ces jeunes gens, jouent un rôle important aussi dans l'histoire de la guérison de Naaman en 2 Rois 5. C'est un peu la même chose. C'est aussi les serviteurs qui convainquent à la fin Naaman d'aller déjà consulter l'homme de Dieu. C'est aussi un homme de Dieu, justement, Élisée, qui est appelé de la même manière Isha Elohim. Et après, quand Naaman ne veut pas se baigner dans le Jourdain, c'est ses serviteurs à lui qui lui disent « Mais maintenant, tu es déjà là, vas-y. » Donc, ce n'est pas forcément toujours les puissants qui prennent les bonnes décisions et c'est un thème qu'on trouve plusieurs fois. Hein. Donc, le prophète et le voyant, C'est le verset 9, donc, où on identifie en fait le Navi avec le Roé, c'est lui qui voit. Et on le présente comme un terme archaïque. Hein? Ra'a veut dire voir, Roé le participe, donc c'est lui qui voit. Mais on le trouve encore dans les livres des chroniques, qui n'est pas forcément un livre très, très ancien. Hein? Mais apparemment, on veut un peu se distinguer ou se distancer de ce nom de Roé. Donc, il est présenté comme archaïque, alors qu'il semble qu'il a été quand même utilisé assez longtemps. Et c'est en fait un terme parallèle à un autre terme qui est un peu plus fréquent, qui est Khotse. Khotse, c'est aussi celui qui voit, l'homme à vision, donc assez proche de Roé. Et ensuite, donc, ils vont arriver de plus en plus proches de la ville. Ils montèrent à la ville et ils trouvèrent des jeunes filles. Ça aussi, ça vous fait un peu conte de fées, non ? Ils retrouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, le voyant est-il ici ? Il leur dit, oui, il y est, le voici devant toi. Maintenant, dépêche-toi, il est venu en ville aujourd'hui, car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous êtes arrivé dans la ville, aussitôt vous irez le trouver, avant qu'il monte au haut lieu, pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, car c'est lui qui doit bénir le sacrifice. Après quoi, les invités mangeront. Maintenant donc, montez, car lui, aujourd'hui, vous le trouverez. Ils montèrent à la ville. C'est un peu confus, non ? Et donc, probablement, l'idée du narrateur, c'est de dire qu'ils parlent tous en même temps. Donc, il va les jeunes filles, il va deux garçons qui sont pas mal, et puis, voilà, ils se mettent à leur rencontre. Donc, l'idée des rencontres des voyageurs avec des jeunes filles qui sortent pour puiser de l'eau, ça vous rappelle Moïse, ça vous rappelle Jacob, ça vous rappelle Jésus et la Samaritaine. On est toujours dans le même schéma littéraire. Hein. Et donc, en fait, cette scène, finalement, elle est inutile quelque part. Mais je pense que le narrateur, pour le plaisir de l'histoire, il a ajouté cela parce qu'en fait, ils auraient pu arriver directement, peut-être dans un récit plus ancien, ils arrivaient directement chez Saül et chez Samuel, mais peu importe. Donc, mais on apprend quoi ? On apprend qu'il y a un haut lieu, Bama. Qu'est-ce que c'est un haut lieu ? C'est une colline. C'est un sanctuaire, probablement en plein air, qui sont assez fréquents, difficilement évidemment à cerner sur le plan archéologique, parce qu'il n'y a pas vraiment de construction. Il y a probablement des stèles ou d'autres symboles de divinité. Hein ? Mais la Bible en parle beaucoup de ces bamotes. Et les deutéronomistes ne les aiment pas. Même si peut-être on y a vénéré Yahvé, ça c'est possible. Hein ? Mais. En fait, avec l'idée des deutéronomistes, c'est le temple n'est pas encore construit, le temple de Jérusalem n'est pas encore construit, donc tout ce qui est avant la construction du temple, on peut tolérer. C'est probablement ça l'idée que les deutéronomistes se font pour accepter ce type de sanctuaire. Donc arrive la rencontre avec Samuel. Ils entrent dans la ville, voici que Samuel sort devant eux pour monter au lieu. Or, Yahvé avait ouvert l'oreille de Samuel un jour avant l'arrivée de Saül. Et il lui avait dit, « Demain, à la même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras comme chef de mon peuple Israël, celui qui sauvera mon peuple de la main de Philistin. Ce que j'ai vu, et la Septante ajoute l'humiliation de mon peuple, et que son cri est arrivé à moi. » Si vous connaissez bien votre Bible, ça vous rappelle quelque chose ? Moïse, voilà, très bien. Et voici l'homme, et Yahvé lui avait répondu, voici l'homme dont je t'ai dit, c'est lui que tiendra mon peuple en main. Donc Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte, plutôt au milieu de la ville, mais peut-être la porte c'est pars pro toto pour la ville, et il dit, je t'en prie, indique-moi où est la maison du voyant. Et Samuel répondit à Saül, c'est moi le voyant. « Monte devant moi au haut lieu, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur ce qui te préoccupe. » Pourquoi il dit « Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai. » Pourquoi il ne le dit pas tout de suite ? Mais qu'est-ce que font les hommes de Dieu ? Pensez à Balaam. Il faut qu'ils fassent des rêves d'incubation. Ils fument quelque chose, ils boivent quelque chose, et puis après, donc, en fait, la nuit, en fait, ils ont des rêves. Et le lendemain, ils peuvent renseigner la personne. C'est la même histoire avec Balaam et Balak dans le livre des Nombres, où Balaam va toujours attendre la nuit que Yahvé lui parle. Et après, il peut parler à Balak. Et donc, du coup, le verset 20, ça ne fait aucun sens. Pour ce qui est des ânes égarés, il y a 3 jours, ils n'y pensaient pas, ils ont retrouvé. Mais c'était pour ça qu'ils voulaient le trouver. Donc du coup, ça c'est clairement un rédacteur qui a ajouté ça, qui ne pouvait pas attendre le lendemain. Donc là, vous voyez, il y a une révision de l'histoire. Surtout, on l'a rajouté parce que ça a eu le répondu « Ne suis-je pas Benjaminite, une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la dernière de toutes les familles des tribus ? Pourquoi donc m'adresses-tu une telle parole ?» Donc là, c'est quoi ? Elle dit « Mais moi, je suis le plus petit. Je ne sers à rien. » Ça, c'est aussi une convention littéraire. Comment est-ce que vous avez ça ? Moi, je ne peux pas. C'est comme des récits de vocation. Moïse, Gédéon, Jérémie. Donc, les gens qui sont appelés par Dieu, souvent vont dire « Mais moi, je ne peux pas. » Et donc, c'est comme si nous avons là une sorte de révision qui voulait faire de ce récit de Saül une sorte de récit de vocation. La consécration comme roi, c'est aussi la vocation de Saül. Donc c'est pour cela que Samuel lui dit « Mais toi, tu viens d'une grande famille. » Il dit « Non, non, je n'ai rien, je ne peux rien faire. » Et donc c'est l'idée que Dieu va choisir toujours le plus faible, le plus petit, ce qu'on va retrouver aussi dans l'histoire après de l'onction de David. La même chose. Et Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle, leur donne une place en tête des invités. Ils étaient environ 30, la septante dit 70, 70. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée, celle dont je te dis, mets-la à côté. » Le cuisinier présenta ou éleva le gigot, ce n'est pas tout à fait clair. Il le mit devant Saül, donc c'est un peu un texte compliqué, mais apparemment, il lui offre des choses très, très importantes. Et puis, ils descendirent ensuite au lieu à la ville. Ils s'entretinrent avec Saül sur la terrasse. Là aussi, le texte grec est très différent. On disposa, dit le texte grec, pour Saül sur la terrasse de quoi s'entendre, de quoi dormir. Dans le texte masorétique, ils discutent. En texte grec, ils dorment. Ce qui fait plus de sens parce qu'après, dès que monte à l'aurore, Samuel appela Saül sur la terrasse. Il lui dit, en route, je vais te laisser partir. Saül se leva, ils sortirent, et Samuel au dehors. Donc, l'idée, c'est que, en fait, Saül est accueilli comme un roi. L'idée qu'il va devenir roi, et déjà, en fait, annoncer, en fait, ça gâche aussi un tout petit peu la surprise, parce que là, maintenant, on dit que Yahvé avait déjà ouvert l'oreille à Samuel. Je pense qu'il aurait été mieux que c'est tout à la fin que ça vient. Donc, vous voyez que les textes anciens ont été retravaillés avec l'introduction de nouvelles idées, l'idée de l'onction, donc la racine Machach, qui va donner Machiach, le Messie, loin, le consacré, indique un acte de transfert de sainteté de la divinité à quelqu'un d'important, le roi. Ça peut être aussi le prêtre. Mais ça peut être directement les rois, comme on a ici sur un relief égyptien d'une époque très tardive, c'est Ptolémée Évite qui se fait en fait représenté comme un pharaon, mais qui est oint en fait par deux divinités. Le pharaon aussi peut oindre ses hauts fonctionnaires ou aussi des dieux. Donc c'est une sorte de distinguer des personnes. Deuxième chose qui est importante dans notre histoire, c'est que Samuel va oindre Saül, mais on ne trouve pas le terme de roi. on ne trouve pas le terme de Meller. On trouve le terme de Nagid. En fait, dans toute l'histoire, le terme roi est absent. Seulement tout à la fin, on va dire que Saül ne disait rien par rapport à la royauté, quand il va rencontrer à la fin son oncle, et pas son père. Hein. Et donc, en fait, Saül est, en effet, appelé Nagid, une racine dont on ne sait pas, disons un nom, un mot dont on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça désigne directement. Donc, la racine veut dire, en effet, annoncer, Nagad. C'est lui qui a annoncé. Est-ce que c'est le roi désigné? Est-ce que c'est quelqu'un à haut fonctionnaire? C'est très, très difficile de savoir. On a presque l'impression, peut-être quelqu'un aussi qui a réécrit l'histoire, il voulait un peu éviter le terme roi pour Saül. On a presque l'impression. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, Samuel parle, ou disons, pardon, Saül, quand il n'y avait pas la Samuel, Saül est quand même un peu présenté comme à Moïse, parce que c'est lui qui doit sortir son peuple de l'oppression. Donc là, vous avez le texte de l'Exode, « J'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte, j'ai entendu son cri. » Et ensuite, vous avez « L'humiliation de mon peuple, son cri est arrivé chez moi. » Petite anecdote, et puis on va terminer bientôt. Lorsque Samuel avait vu Saül, Yahvé lui avait répondu, « Voici l'homme dont je te dis, donc Saül est présenté par Yahvé comme celui que Samuel doit consacrer. » Et dans l'histoire de la réception, c'est une expression qui est devenue très importante, puisque la Septante va traduire Ido ho anthropos, voici l'homme. Et c'est exactement ce que dit Pilate quand il présente Jésus devant le Sanhédrin, ou disons devant les représentants du Sanhédrin. Voici l'homme, ex homo. Donc c'est une reprise, dit au moins M. Böhler, c'est une reprise de ce texte ici. Et ce qui est intéressant, en fait, les deux ont affaire avec la royauté. Saül deviendra roi, ensuite rejeté par Yahvé. Jésus acclamé roi d'abord, mais rejeté ensuite par les siens. Et donc peut-être il y a en effet un jeu ici intéressant. Donc je passe sur la nourriture, on avait déjà parlé. Donc apparemment l'idée c'est que Saül est servi de manière tout à fait royalement. Et ensuite vient l'onction, mais peut-être cette onction, on va la garder un peu en réserve pour demain, pour la semaine prochaine, pardon, pour la semaine prochaine, où j'espère qu'il y aura de nouveau un séminaire. Donc voilà, pour celles qui sont venues pour le séminaire, je m'en excuse. Donc la semaine prochaine, on aura un séminaire donc sur les rois assyriens, si je ne me trompe pas. Et donc, je vous annonce aussi déjà maintenant, là, vous allez avoir des semaines très bibliques parce que à partir, non pas de la semaine prochaine, mais à partir de la première semaine de mars, vous aurez un collègue de l'Université de Bonn qui parlera d'un livre dont je suis incapable de vous parler. C'est l'Ecclésiaste, c'est le livre de Coëlette. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir les origines de la philosophie théologique dans la Bible, voilà, je vous redirai ça la semaine prochaine. Et on se retrouve donc pour finir l'histoire de Saül et puis continuer sur l'opposition entre Saül et David. Voilà, bonne semaine, bonne journée et à bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.